Des mots, des noms nouveaux, le bonheur des premières fois, celui du premier regard, de la première écoute, de la découverte, d'une langue renouvelée, revivifiée, sans cesse en mouvement, sans limite, la langue du tout possible.
Pascal Paradou.
Comme tous les ans, nous voici à Limoges pour le Festival des Zébrures d'automne, au lieu des écritures francophones depuis 41 ans, avec deux jeunes auteurs, Panda Diouf, qui d'année en année devient une grande, avec dans les mois prochains de nombreuses créations, dont La Grande Ours. Bonjour Panda Diouf.
Bonjour Pascal.
La Grande Ours, qui est l'histoire d'une métamorphose, une femme devient ours.
Exactement.
Pourquoi ?
Parce que c'est un animal qui touche à la fois le monde de l'enfance et qui est vraiment dans l'imaginaire du conte, et aussi parce que c'est un animal qui, lorsqu'on agresse ses oursons, peut devenir, se révéler à lui-même et devenir un peu plus violent. Et j'avais envie de travailler sur cette question-là de la radicalité, de la transformation dans un système qui peut être parfois oppressant.
La Grande Ours, qui est aussi une constellation.
Exactement.
Un texte qui est un peu comme un conte fantastique, mis en scène par Anthony Thibault, qui est avec vous. Bonjour Anthony Thibault.
Bonjour.
Pourquoi avoir choisi ce texte parmi les très nombreux écrits de Panda Diouf, sachant que c'est un texte qui date de 2016? Donc il dormait?
Il dormait, exactement. En fait, je lui ai demandé, c'est ma troisième pièce, et je lui ai demandé quelle pièce, justement, dormait. Et la Grande Ours...
Hibernait, pardon.
Oui, exactement. C'est le bon mot. Et en fait, c'était un choix important pour moi de travailler sur ces pièces-là, justement, celles qui dorment, qui sommeillent. Et La Grande Ours, pour moi, ça vient raconter justement toutes les violences systémiques, toutes les violences du monde. Et elle venait me percuter dans le sens où même moi, jeune, j'ai été très violent, ou j'étais un enfant plutôt violent. Et c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on les transforme, nos violences collectives.
Alors, une longue amitié vous lie, tous les deux, et vous avez créé, 9 ans, le collectif et le label Texte en Liberté pour promouvoir l'écriture de théâtre contemporain et la diversité. Et vous accompagnez encore aujourd'hui de nombreux auteurs et autrices, Anthony Thibault.
Oui, en fait, c'est un comité de lecture qui sélectionne chaque année des auteurs et des autrices. Et on pose la question avec Penda dans ce label d'écriture, quelles histoires aujourd'hui on raconte sur les plateaux de théâtre et à qui on s'adresse. Et donc, chaque année, on sélectionne 3 auteurs et autrices et on les accompagne à la fois à rencontrer des maisons d'édition, en tout cas on essaye de faire circuler dans d'autres comités de lecture, et on essaye de leur faire rencontrer des metteurs en scène, metteuses en scène, pour que ça aille rencontrer le public, justement.
Alors ça tombe bien, car je vous présente Gad Bensalem. Bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour.
Lauréat du prix RFI Théâtre 2024 pour un texte intitulé Enfant. Alors félicitations tout d'abord.
Merci.
Vous vivez à Madagascar, dans la Grande Île, et c'est d'ailleurs un des sujets qui ne se raconte pas du tout sur les plateaux de théâtre ici en Europe, mais c'est un des sujets de votre théâtre. Est-ce qu'il nourrit à la fois votre quotidien et votre écriture?
Oui, oui, absolument. On parle bien du pays, là. Le pays Madagascar, qui pour moi est toujours en filigrane dans la démarche. En tout cas, je ne l'aborde pas de manière frontale. C'est toujours l'alibi. Pour moi, c'est les histoires personnelles. Donc là, je raconte d'un enfant l'histoire de Douda, qui est camionneur, qui a une histoire de famille assez mouvementée. Et d'ailleurs, c'est un homme en mouvement que je raconte, qui part de Antananarivo pour aller vers cette RN44. Et en toile de fond, c'est l'histoire d'un pays en déchirure, c'est l'histoire d'un pays fracassé par la misère ambiante et par une quête quasi permanente de la stabilité, du développement.
Un pays qui vomit ses enfants, écrivez-vous, c'est violent.
C'est un pays qui vomit ses enfants, malgré lui. Et d'ailleurs, on parle de femmes dans la Grande Ours. Nous, on dit « firenena » pour dire la patrie. Et si on traduit littéralement, ça vient de Reni qui veut dire la maman. Donc on dit matrie, nous, dans notre langue. Et donc c'est une maman pays qui vomit ses enfants. Madagascar, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a un mal social profond, un élan économique qui n'arrive pas à se faire, et surtout un peuple qui souffre, tout simplement.
Dans ces cas-là, dans ce cas-là, vivre à Antananarivo et être un auteur dans cette grande île, est-ce que c'est être isolé? Est-ce que c'est se sentir particulièrement seul?
Seul, non. Heureusement, d'ailleurs. Seul, non, parce qu'on trouve toujours notre public et on trouve toujours une place. Mais c'est une place qu'on se cherche nous-mêmes. Ce n'est pas une place qu'on nous donne. Donc, l'acte même de se poser en tant qu'auteur ou comédien ou metteur en scène, metteuse en scène, autrice de pièces de théâtre à Madagascar, il y a aussi une forte présence féminine dans ce mouvement théâtre malgache. D'ailleurs, ma compagnie, Compagnie Mengal Théâtre, c'est une compagnie qui a été créée par Christian Ramanantsu. Et donc, ce sont des gens qui sont mus par cette passion du dire et aussi d'exister par l'art. Et qui se positionne fortement dans une société qui, en fait, nous oublie, nous les artistes. Et donc, moi, je dis souvent, à Madagascar, ce n'est pas tant la censure, ce n'est pas tant l'absence de moyens qui freine les créations, c'est plutôt l'indifférence.
Vous avez, lors de la remise de ce prix, et dans les premiers échanges que nous avons eus, déclaré que vous étiez fier de pouvoir inscrire Madagascar sur la carte des géographies théâtrales francophones.
Oui. Oui, parce que même dans la grande communauté des auteurs et des autrices africaines, nous existons peu. Alors, nous avons des grands noms, Michel Rakoutson, Jean-Luc Rarmanana, ce sont vraiment pour nous des porte-étendards de cette écriture francophone malgache. Mais en même temps, on se sent un peu à l'écart, et c'est peut-être aussi l'insularité qui fait ça. Donc, cette grande île, si proche de l'Afrique, mais si loin aussi. Et les peuples ne se connaissent pas, etc. Et moi, vraiment, c'était une obsession, c'est de se dire, on existe ensemble, quoi. Et à travers le geste d'écriture théâtrale, je trouve ça encore plus beau.
Alors, Limoges, ce sont des créations, c'est La Grande Ourse, par exemple, des remises de prix comme celle du prix RFI Théâtre avec vous, Gaden Salem, mais aussi des concerts, avec notamment les Amazones d'Afrique, et ce sera ce samedi au Grand Théâtre.
Thank you.
Kobomé, les Amazones d'Afrique sur RFI au Festival des Zébrures d'automne à Limoges où nous sommes avec Panda Diouf, Anthony Thibault pour La Grande Ourse et Gad Bensalem, le nouveau lauréat du prix RFI Théâtre avec ce texte « Enfant » qui est un grand poème dramatique sans ponctuation et avec des salves en lieu et place des scènes. Pourquoi cette forme-là, Gad Bensalem?
Les salves, pour moi, ça renvoie aussi à la notion d'urgence de dire et l'urgence des mots qui arrivent vers soi aussi. Et salve, ça rejoint aussi peut-être le fait que je sois slammer à la base. Donc, c'est ce côté rythmique des mots qui arrivent et qu'il faut... Voilà, pour moi, il faut que l'auteur soit, et l'autrice, soit à la hauteur des mots qui lui arrivent.
Alors, c'est l'histoire d'un homme, d'un enfant adulte, je vous cite, qui est routier de son état et qui est à bord de son camion en verre kaki. Il traverse le pays, comme ça, sur la RN 44, à la recherche de son père. C'est un road movie. Certains membres du jury ont parlé de western. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée?
C'est plutôt bien trouvé. Je n'aurais pas dit la même chose, mais avec le recul, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que, oui, il y a ce côté aussi où c'est un pays à la fois tellement verdoyant, mais aussi très aride. Et à ce côté paysage qui nous happe. Et donc moi, les routes de Madagascar m'inspirent énormément. Mon premier texte traitait de la RN7 qui va de Tana à Tuléa. Celui-ci se déroule sur la RN44 de Tana à Mbatondrazak cette fois-ci. Donc voilà, c'est le paysage, je pense, inspire ça. Et si le texte a pu faire voir cette image-là de Madagascar aussi, c'est que j'ai réussi un petit pari, c'était de montrer Madagascar vraiment dans son vrai visage.
Au travers donc le regard de cet homme d'Oda, qui semble mort. Vous dites d'ailleurs qu'il est mort de l'intérieur et il ne parle pas. Alors c'est bizarre pour du théâtre de se dire qu'un personnage ne parle pas, mais on entend sa voix intérieure en fait.
Oui. J'ai fait le pari aussi de faire parler le silence parce que dans la vraie vie, je suis très bavard. Et je fais un théâtre bavard souvent. Et sur ce texte-ci, je me suis dit, mais le silence peut parler. Et comment je peux le faire parler? Donc cette voix intérieure et Douda qui ne parle pratiquement pas parce qu'il se définit comme un homme mort, c'est parce que il y a aussi, nous, chez les Malgaches, ce côté très passif. Et on nous le reproche d'ailleurs souvent. Les gens nous disent souvent, mais vous vivez dans un pays comme ça, aussi riche, vous ne faites rien. Et en fait, ce n'est pas qu'on ne fait rien, c'est qu'on nous empêche de faire quelque chose. Et ça, ce n'est pas la même chose. Et moi, en tout cas, en tant que malgache, je n'accepte pas qu'on nous dise ça. Et dans ce texte, j'avais envie aussi de laisser parler ce silence-là.
Mais il est mort de l'intérieur, pour quelle raison? Parce que sa mère est morte très jeune, parce qu'il n'a pas eu de père et qu'il est dans ce manque-là. Une version un peu psychologique que je tente là.
Mais moi, en tout cas, la seule réponse que j'ai par rapport à ça, c'est que pour moi, la pire des présences, c'est l'absence. Et donc, il est prêt à abandonner sa maman et sa grand-mère pour quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et cette motivation-là, j'ai envie de la décortiquer, j'ai envie de la faire parler. En tout cas, l'origine du texte, c'est ça. C'est pourquoi il abandonne ce qu'il a pour ce qu'il n'a pas.
Alors Doda va rencontrer Claudette, c'est la serveuse de l'épibar où il va tous les jours à la même heure, le gardien des rails. Alors il n'y a plus de train à Madagascar.
Non, hein, mais il y a des gardiens de rails.
Mais il y a des gardiens de rails, une prostituée aveugle et les voix s'invitent comme ça dans ce texte. C'est un texte pour un comédien ou pour plusieurs?
Je pense pour plusieurs quand même, pour donner voix et la lecture qu'on a pu en voir du texte à Limoges a été pour moi aussi révélatrice de ça, du besoin de plusieurs voix.
Alors en effet, il y a eu une lecture hier au festival Les Zébrures d'automne au moment de la remise du prix et un jeune comédien de l'école supérieure du théâtre de l'Union a lu un court extrait. Donc c'est le moment où Doda rencontre son père. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? L'ambiguïté plane. C'est une lecture de Yempabou Tan Koano.
Tu as le devoir de me parler. Parle-moi, mais en silence. Parle-moi des années qui nous séparent, de cette route sur laquelle tu nous as mis tous les deux. Ne me dis pas pourquoi. Dis-moi comment. Dis-moi où, quand, mais pas pourquoi. Parle-moi! Mais tu ne peux pas. Tu pues de la gueule, tes histoires sont des boyaux. Tu n'es pas marchand, tu es bouché. Tu dépaisses les tiens comme on dépaisse un zébu. Ça sent le sang, ça sent les tripes fraîches. Tu fais de nous de la viande à étaler pièce par pièce, avariée par les années. Tu pues comme le boucher, tu pues comme la viande, putain. Si ça se trouve, je pue comme toi et je ne le sais même pas. Dis-le-moi, dis. Est-ce que je pue comme toi? Hein? Dis-moi, est-ce que je pue comme toi?
Enfant de Gad Ben Salem, c'est la fin du texte, hein?
Oui.
Est-il mort, est-il vivant, le père?
Il est mort.
Vous avez écrit 9 textes, 6 en collaboration et 3 en votre nom propre. Et ce sont des textes en français, alors que ce n'est pas votre langue maternelle. C'est un choix délibéré. Vous prenez le risque de vous couper d'une partie de la population qui ne parle pas français et qui parle que malgache?
Ben, j'ai l'impression qu'en choisissant, et c'était un choix, d'écrire aussi en français, parce que j'écris aussi en malgache, d'écrire aussi en français, c'était, je ne me coupe pas d'eux, je suis un prolongement aussi de leur propre voix. En tout cas, c'est une responsabilité que je suis prête à prendre aussi, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas audibles à Madagascar, et qui ne sont pas audibles en malgache aussi. Il y a aussi ça, et par exemple, il y a une récente pièce qu'on vient de sortir qui s'appelle La Ferme, et beaucoup de malgaches nous disent eux-mêmes, ne traduisez pas ce texte en malgache, sinon vous aurez des ennuis.
Pourquoi?
Ça parle de la situation sociopolitique à Madagascar de manière assez tranchée, et finalement en français ça passe, en malgache apparemment ça ne passerait pas. On n'a pas fait l'expérience, et c'est une réflexion en cours, comment est-ce qu'on peut aussi dire ce texte-là en malgache.
Mais votre français est français ou malgache?
Malgache.
C'est-à-dire?
Mon français malgache. Parce que j'estime que le français de Haïti n'est pas français, il est haïtien. Et que le français du Québec n'est pas français, il est québécois. Et que le français d'un malgache, il est malgache.
Panda Diouf, je me tourne vers vous, franco-sénégalaise, vous êtes née et vous vivez en France. Diriez-vous que votre français est africain?
Il peut l'être. Il peut l'être, c'est-à-dire qu'il a des accents, forcément. Je viens d'un... Même si je suis née en France et que j'ai toujours grandi en France, j'ai une culture subsaharienne, africaine, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, par mes parents, par les cousins, par la famille. Et de ce fait-là, effectivement, il y a des choses, je pense, de ma langue qui sont imprégnées de cette histoire-là. Je ne sais pas si c'est audible ou pas, mais en tout cas, moi, je le sais.
Et dans les thèmes? Dans les thèmes traités?
Oui, les thèmes, effectivement, je pense que c'est des thèmes liés à la diaspora, d'une certaine façon, c'est-à-dire à une forme de troisième espace qu'on se crée entre le continent européen et le continent français, et comment on essaye d'évoluer avec tout ça, avec l'héritage des deux continents, avec les rapports de domination des deux continents, et comment on trouve notre propre autonomie, et peut-être aussi à travers la langue et l'écriture.
Dans quel espace se situe La Grande Ours, donc le texte qui est créé ici au Festival de Limoges?
Il se passe dans deux espaces différents, je dirais un espace plutôt européen, même voire français, et un espace beaucoup plus onirique, et un espace de l'imaginaire. Et les deux se mêlent, s'entrecroisent, et on passe d'un univers très concret et très réaliste à quelque chose de beaucoup plus fantastique, vous avez utilisé le terme tout à l'heure, ou de l'ordre du conte, et j'aime bien aussi cette porosité entre les genres.
Et un univers peut-être beaucoup plus africain, parce que l'imaginaire est africain.
Oui, l'imaginaire est africain, il y a un personnage de Griot par exemple, dans la pièce, qui compte les histoires, et notamment les histoires... il aurait aimé compter les histoires des personnes qui n'en ont pas, ou dont la transmission a été rompue. Il y a un univers lié à la transformation, il y a des références au livre Luc le Lièvre, que j'ai adoré lire quand j'étais petite. Donc oui, l'imaginaire est africain.
Alors le début, on va raconter un tout petit peu le début de La Grande Ourse, c'est totalement débile et absurde.
Mais alors, vraiment, débile, je ne sais pas, mais absurde peut-être.
Une femme est placée en garde à vue car elle a jeté un papier de bonbons par terre. C'est quand même débile.
Au premier abord, ça semble effectivement surprenant ou absurde, et finalement on se rend compte que la société est plus... Elle peut basculer très vite, on l'a vu lors du confinement. Les quelques mois qu'on a passés enfermés à la maison étaient inimaginables 2-3 jours avant. Et pourtant, c'est arrivé et on a suivi ce qui nous était recommandé, à savoir de rester à la maison avec une heure de sortie. Et ça nous semblait absurde et peut-être débile une semaine avant, et pourtant, c'est arrivé.
En tout cas, à partir de cet événement, dans la pièce, tout bascule. La vie de cette femme, la vie de sa famille, et notre perception de ce qui se passe sur scène bascule aussi, puisque on est dans le conte à la fois fantastique et métaphysique. Et cette femme, donc, qui s'appelle Awa, va se métamorphoser. Est-ce que c'est sa réponse à l'humiliation qu'elle vient de subir ?
Je pense effectivement qu'elle a besoin, suite à cette garde à vue qui a été extrêmement traumatisante pour elle, où elle n'a pas eu la place de s'exprimer, je pense qu'elle a besoin de trouver des forces en elle pour supporter, pour tenir le coup. Et ces forces, elle les trouve dans l'imaginaire. Et c'est un outil, je pense, extrêmement puissant pour essayer de se débattre avec les contrariétés et les oppressions du quotidien.
Est-ce que ce qui la sauve, c'est sa révolte, la révolte, Anthony Thibault ? Le refus de cette situation que je dis débile, mais qui est absurde, qui est...
Oui, je crois que de toute façon, elle se transforme en ours pour justement se révolter. Un ours est très calme, sauf quand on attaque son territoire et sa progéniture. Et je crois que c'est sa façon de se dire, bon, bah, très bien, je vais aller au combat, mais je le fais dans une histoire de transmission pour mon enfant et pour les générations futures. Et je crois que c'est là où, en effet, elle sent que le combat est juste.
Donc elle part dans la forêt, elle va rencontrer l'esprit de la forêt, Mutunus Tutunus.
Il me lèche, me lèche, me lèche de sa langue râpeuse. Il me lèche partout. Partout. Cela dure des heures de massage, de modelage par la langue, comme une seconde peau. Il me façonne. Il me fait un nouveau placenta, fait de salive et de sueur. Je suis un bébé ours. Je nais à la vie. Je nais à la vie. Le jour où je suis devenue ours.
Armel Habibou dans La Grande Ourse, votre texte Panda Diouf. Anthony Thibault, vous qui signez la mise en scène, c'est compliqué de mettre en scène une métamorphose.
Oui, c'est compliqué. Ça a été une des plus grandes questions de mise en scène, c'est-à-dire jusqu'où je vais. Et quelle place je laisse au final tout le travail de Penda qui est sur le travail de l'imaginaire et de comment l'imaginaire peut nous modifier, nous impacter. Et moi, c'est ce que je fais aussi dans mes mises en scène, c'est construire peu, mais en tout cas de créer l'imaginaire chez les gens ou en tout cas de susciter cette imagination. Donc je m'amuse avec ça et on s'amuse avec Armel de se dire il y a une transformation qu'on voit au fur et à mesure, mais ce n'est pas une transformation comme on pourrait l'imaginer avec des poils.
Oui, voilà, on ne la voit pas, cette transformation. Il n'y a pas de costume d'ours, de poils, de griffes, etc. C'est vraiment une modification intérieure et une modification du corps de la comédienne sur scène.
Oui, c'était tout le travail, c'était de voir un peu son parcours et de sentir au fur et à mesure, il y a le bassin qui rétroverse, il y a les mains qui prennent un peu plus de place, il y a un mouvement un peu plus lent aussi et une façon aussi de se comporter un peu plus complète ou un peu plus sèche aussi vis-à-vis de la société extérieure qui vient combattre ou qui vient... détruire la cellule familiale.
Alors, sans raconter l'issue de la pièce, cette femme est considérée quand même comme sorcière. Sa famille va voler en éclats, elle va être victime des rumeurs et des on-dits. Et son mari va se suicider, et je ne spoil pas la pièce, parce que c'est dit dès la première phrase. D'ailleurs, pourquoi c'est dit si tôt, Panda Diouf ?
Ce qui m'intéresse aussi dans l'écriture, c'est de donner des petits indices et de m'amuser avec les spectatrices. Et c'est un indice, en fait, parce qu'on ne sait pas qui va se suicider. On entend juste « on l'a retrouvé pendu, si ce n'est pas malheureux ». C'est la première phrase du texte. Mais qui est retrouvé pendu ? Comment ça arrive ? Ça, on ne le sait pas. Et en fait, on l'apprend au fur et à mesure en suivant le spectacle. Et j'aime bien cette idée de donner des petits rendez-vous comme ça aux spectatrices. Et au moment où ça arrive, ils se disent « Ah bah oui, en fait, on le savait ». savait depuis le début. On était informés et là, on comprend les enjeux.
On dit qu'il a perdu l'usage de la parole et qu'il s'est mis à caqueter tout le temps. Des bruits de poulet qui sortaient de son gosier. Plus des sons humains. Il a même pas choisi un animal un peu prestigieux. On dit que c'est un poulet qui attend d'être rôti. On dit que c'est un poulet qui attend d'être croqué. On dit que toute la ville a faim de poulet. Tu veux quoi? Poulet DG? Poulet braisé? Poulet rôti? Poulet yassa?
Viens! Je peux encore te sauver! Viens avec moi, s'il te plaît! Je peux pas te perdre toi aussi. Ne reste pas là dans cet entre-deux! Viens! Viens!
Désormais, ils ne se comprennent plus. Ils ne parlent plus le même langage. Il est devenu fou à sa manière. Une façon de se protéger. Perdre la langue face à la violence du monde, ce n'est pas forcément de la folie. C'est l'ultime refuge.
Maïka Loakerim et Marcel Mankita dans La Grande Ourse. Peut-on perdre la langue face à la violence du monde, Panda Diouf?
Malheureusement, oui. Je pense qu'il y a aussi des moment où la violence est telle qu'il peut y avoir des effets de sidération. On l'a parfois vécu, ressenti dans son corps ces dernières années. Mais malgré tout, j'ai l'impression que la question de l'imaginaire, j'y reviens encore, mais aussi de l'écriture, de l'art, plus globalement, permettent aussi de traverser aussi ces moments-là qui peuvent être parfois difficiles, douloureux, et de à la fois trouver un autre refuge, un autre type de refuge, et de créer ses propres outils également pour... défier l'adversité.
Mais le théâtre est là pour faire entendre la voix, pour faire entendre les voix, non ?
Oui, mais on parlait tout à l'heure de silence, et je pense que le silence aussi, parfois, peut être un outil puissant, en fait.
Gad Ben Salem, est-ce qu'on peut perdre la langue face à la violence du monde ? Ça fait un peu exercice de philo à la fin de l'année pour le bac, hein, mais bon, ça c'est à cause de Panda et de son texte.
Ah donc c'est tout est de ta faute, mais c'est une belle faute. Je rejoins Panda sur ça, c'est que malheureusement, oui, parce qu'il y a la violence. Et j'ai lu une phrase ce matin. Alors, j'allais dire c'est drôle, mais la phrase n'est pas drôle en soi. C'est la violence qui devrait être tabou et pas tout ce qu'il y a autour, pas les bruits qu'il y a autour. Et c'est la violence qui, justement, crée le silence et le mutisme parfois. Et donc, à un moment donné, il faut peut-être aussi qu'on s'avance dans comment on devrait faire en sorte que la violence elle-même n'existe plus. Mais ça... C'est un travail collectif. Et le théâtre est là soit pour mettre en lumière, soit pour mettre une croix dessus pour qu'on taise. Et c'est l'espace du théâtre qui permet ces deux-là.
Merci à vous trois. Merci Panda Diouf, merci Anthony Thibault. La Grande Ourse, c'est au festival Les Zébrures d'automne à Limoges. Puis vous serez en tournée notamment à la MC93 à Bobigny du 7 au 17 décembre. Et le texte est publié aux éditions au Quartet. Gad Ben Salem, merci. Enfant, le texte est à publier et à découvrir tout au long de l'année, puisque nous aurons l'occasion de nous revoir, et notamment au Festival d'Avignon, puisque le lauréat du prix RFI Théâtre a de nombreux rendez-vous à Saint-Louis du Sénégal, à Rouen, à Limoges et à Avignon. Donc, belle aventure.
Merci.
De vive voix, Pascal Paradou avec Cécile Lavolo, Laura Pinto pour la prise de son et la réalisation. Rendez-vous demain, toujours au Festival des Zébrures à Limoges.